Bonjour. Désolé, je suis un peu enrhumé, donc je vais lire parce que je suis un peu confus. Donc, mon titre est « Le conservatisme de gauche ». En fait, dans le comité organisateur, j'ai été la personne tirée au sort pour taper sur les amis. Il y a plusieurs façons, évidemment, de poser cette question. On peut dire, par exemple, que dans les mouvements progressistes, par exemple, il y a un certain conservatisme organisationnel ou en termes de stratégie, qu'en ce moment, les forces de gauche, par exemple, essaient de protéger le statu quo en termes de défense de l'État-providence. Donc, il y a différentes façons de le penser. Mais moi, je vais critiquer, finalement, le conservatisme de gauche dans ses positions face à ce qu'il appelle les nouveaux mouvements sociaux et plus spécifiquement le féminisme. Le Canada, donc, comme je vous disais, je vais lire pour essayer d'éviter d'être trop confus. Le Canada a connu en politique fédérale un parti progressiste conservateur. À l'époque, ce nom en faisait rire plusieurs. Il y a encore aujourd'hui des individus que l'on pourrait nommer progressistes conservateurs, voire même progressistes réactionnaires. Ce sont des universitaires qui se disent de gauche, mais qui me semblent conservateurs, voire réactionnaires, spécifiquement, plus précisément dans leur façon de critiquer les nouveaux mouvements sociaux et le féminisme. C'est d'eux dont je vais vous parler ce matin. On retrouve du côté de la gauche conservatrice des nationalistes républicains sociaux-démocrates, des socialistes et même des anarchistes. Je suis conscient que tous ces acteurs ne sont pas identiques, mais je crois qu'ils s'identifient tous comme progressistes ou sont perçus comme tels. Parmi eux, certains se disent conservateurs de gauche seulement en privé, comme me l'a avoué un sociologue proche de Michel Freytag. D'autres s'affichent publiquement dans les nouveaux cahiers de socialisme. Je vais y revenir tout à l'heure. Évidemment, je ne prétends pas ici, dans un colloque sur le conservatisme, que cette gauche conservatrice est aussi problématique que la droite conservatrice. Je veux tout de même questionner dans une perspective critique les positions de nos amis progressistes conservateurs ou progressistes réactionnaires, qui par ailleurs sont fort souvent sympathiques d'un point de vue personnel. Je pense à Jacques Beauchemin, avec qui on a souvent débattu de cette question, donc il va reconnaître mes arguments, j'imagine qu'il va me retourner les mêmes et on ne se convaincra toujours pas, ou à Éric Martin qui est ici devant. Mon plan en 15 minutes, je vais d'abord préciser ce que j'entends par conservatisme. Ensuite, je vais surtout m'intéresser, comme je l'ai dit, aux critiques qu'adressent les progressistes conservateurs aux nouveaux mouvements sociaux et spécifiquement au féminisme. Selon moi, qu'est-ce que le conservatisme? Le conservatisme dont je parle ici n'est pas à confondre avec le néolibéralisme. Je ne ferai pas une histoire du conservatisme au Québec, mais disons, de toute façon, déjà dans le conservatisme au Canada, il y avait les Red et les Blue Tory. Je m'intéresse plutôt au conservatisme identifié à trois attitudes ou postures, et je m'inspire ici de Michael Oakeshott, un des conservateurs britanniques les plus intéressants à lire du 20e siècle, aussi Éric Bédard, qui propose les mêmes critères pour déterminer ce qui est le conservatisme moral ou culturel. Donc, c'est pas la question du néolibéralisme. Donc, premièrement, on dira que quelqu'un est conservateur dans la mesure où il a comme attitude une certaine prudence, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre de risques en voulant améliorer la société. Et dans ce cas-là, évidemment, il s'oppose au progressisme. Un certain respect de l'autorité, ce que j'ai appelé un certain présentisme, c'est-à-dire que le conservatisme considère que le temps présent est mieux que le temps passé et que les promesses du temps futur, le futur appartient aux progressistes et le passé aux réactionnaires. Donc, sur la ligne du temps, les conservateurs seraient comme aujourd'hui, c'est ce qu'on a de mieux, c'est ce qu'il faut protéger, d'où la question de prudence. Cela dit, aujourd'hui, c'est le quatrième point, le conservatisme me semble souvent plutôt réactionnaire, car il a tendance à dire que le passé était mieux que le présent, puisque nos institutions seraient, par exemple, contrôlées par des néo-marxistes, post-marxistes de l'UQAM ou je ne sais trop. Ce type de conservatisme réactionnaire se retrouve donc aussi chez les amis progressistes, spécifiquement quand ils parlent des nouveaux mouvements sociaux, parce qu'ils accusent les nouveaux mouvements sociaux de toute une série de problèmes, dont je vais parler dans quelques instants, et qu'ils sont nostalgiques donc des anciens mouvements sociaux, disons les mouvements nationalistes républicains ou les anciens mouvements ouvriers, socialistes, etc. Avant, j'aimerais indiquer quand même quelques ressemblances entre conservateurs, néolibéraux et progressistes réactionnaires sur cette question. Pour ces trois courants, le diagnostic est le même. La société civile aujourd'hui dans les États libéraux, dans les pays libéraux, est éclatée et conçue par un ensemble de groupes de pression qui assiègent l'État, ce qui affaiblit l'autorité de l'État. L'État est alors incapable d'assumer son rôle de représentation de l'unité sociale et la promotion du bien commun ou de l'intérêt national. Ce sont les néolibéraux, les conservateurs et les progressistes réactionnaires qui parlent. Frédéric Hayek dit ça. Le livre « La crise de la démocratie » commandé par la Commission trilatérale dans les années 70 disait la même chose. Elle arrivait même à la conclusion, en fait, que la défaite militaire des États-Unis au Vietnam était due en partie à l'agitation de la jeunesse radicale des Afro-Américains, des femmes et des homosexuels aux États-Unis. Une puissance impressionnante. Ça, c'est pour les néolibéraux. Les conservateurs nationalistes disent aujourd'hui, évidemment, la même chose que Hayek. Je pense à Mathieu Bock-Côté qui est ici. Il dit, par exemple, il écrit en fait, il le dit aussi, j'imagine, l'apparition, il déplore l'apparition d'une série de groupes qui réclament chacun un droit de veto sur le gouvernement, ce qui n'est pas sans générer une paralysie du pouvoir politique. Donc, on a encore l'idée là, qu'il y a trop de groupes de pression qui font, qui encerclent l'État et qui l'assiègent. Au niveau de la guerre, évidemment, on n'est plus à l'époque de la guerre du Vietnam, mais selon Mathieu Bock-Côté, nos démocraties sont affaiblies, je le cite, par une classe intellectuelle dénaturée, ça c'est moi, qui prêche la reconnaissance des minorités. Et donc ça, ça aurait pour effet, entre autres, d'affaiblir militairement nos démocraties libérales. Et il dit, selon lui, que nos États devraient réaffirmer, je cite, « le droit de faire la guerre à leurs ennemis sans suivre à la lettre un manuel d'éthique pour déterminer une riposte proportionnée aux agressions qu'elles subissent ». Évidemment, vous savez bien que c'est exactement ce que nos États font présentement en Afghanistan ou en Irak et notre police à Toronto et à Montréal, mais ce n'est pas là mon propos. De leur côté, enfin, nos amis progressistes réactionnaires sont eux aussi déprimés de constater que les mouvements sociaux progressistes sont hétérogènes et mobilisés sur une multiplicité d'enjeux qu'ils disent identitaires. Et là, je vais parler de Jacques Beauchemin. Dans son livre « La société des identités éthiques et politiques dans le monde contemporain », Jacques Beauchemin s'en prend, je le cite, « au pluralisme identitaire ». C'est le terme, tout en se positionnant du côté progressiste en termes économiques. Il dit clairement qu'il déplore un largage des groupes les plus démunis de la société, en termes économiques. Cela dit, Jacques Beauchemin aligne une série de termes que je considère péjoratifs au sujet de ces mouvements identitaires. Et là, je m'excuse, Jacques, je mélange tes deux éditions, là. Un exégèse pourrait faire la part des choses. Il prétend qu'il s'agit de catégories secondaires, de diverses tribus, qui pratiquent le corporatisme identitaire et la mascarade identitaire, ce qui, selon moi, sont des propos péjoratifs. C'est mon interprétation. Comme Hayek et comme le conservateur Bock-Côté, Beauchemin se désole, je cite, « qu'on attendra maintenant de l'État qu'il dessine à chacun les ressources qu'appelle la particularité de sa situation, et comme les particularités sont multiples, l'État est complètement débordé et donc paralysé. » Il dit, comme la commission trilatérale le notait dans les années 70, Jacques Beauchemin parle donc d'une crise de la démocratie représentative, et il en appelle en fait à un renouveau, ou en tout cas un retour sur le principe de légitimation des régimes libéraux fondés aux États-Unis et en France au 18e siècle, quand il déclare que la représentation et, je le cite, « la magie de l'élection permettent qu'une identité se forme, soit la nation elle-même », qui est en fait le cadre pour atteindre le bien commun. À noter ici que la nation et l'identité nationale, à noter ici que les nations et l'identité nationale fragmentent l'humanité. Mais ça, ce n'est pas un problème selon Beauchemin, mais une solution, mais ce n'est pas non plus de ça que je veux parler ici exactement. Beauchemin ne s'inquiète donc pas, en fait, ou en tout cas de façon très marginale, que ce système dit représentatif a été critiqué par les femmes et les féministes pour son manque de représentativité. Il ne s'inquiète pas non plus que les femmes y sont encore très clairement minoritaires. Certes, elles sont 50% dans les assemblées représentatives au Rwanda, mais 30% au Québec, 15% aux États-Unis et 12% dans la belle France. Ce qui l'inquiète, c'est plutôt que les femmes et les autres critiquent ce système représentatif. Cette posture progressiste réactionnaire se retrouve aussi chez des auteurs qui s'identifient comme socialistes. J'ai assumé ça. Comme Éric Martin, peut-être socialiste, j'espère que ça va. Et aux États-Unis, Walter Ben Michaels. Éric Martin, qui lui se place clairement dans la tradition marxiste et de l'école de Francfort, dans ses écrits, en appelle explicitement, je le cite, à un conservatisme de gauche, donc là l'expression se retrouve explicitement revendiquée, qui permettrait, je le cite, d'entrer en rapport réfléchi avec, par exemple, la famille et la nation. C'est dans un texte dans Nouveau cahier du socialisme. Il déplore que la gauche a eu plutôt tendance à lever le nez sur ces réalités. En fait, les féministes se sont bien intéressés à la famille, mais c'est pour y constater que c'est le lieu où sévit le plus de violence contre les femmes et où se pratique l'exploitation non salariée du travail domestique des femmes. Je vous renvoie à Christine Delphi. Cela dit, d'un point de vue purement personnel, je connais beaucoup de féministes, même radicales, qui ont consacré beaucoup de temps et d'énergie à leur famille, entre autres à titre d'aidante naturelle lors de maladies incurables chez des parents. Je ne suis pas certain que tous les hommes progressistes qui critiquent les féministes soient aussi diligents quant à leur responsabilité familiale. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler ici. Donc, les néolibéraux, les conservateurs nationalistes et les progressistes conservateurs partagent une même critique des nouveaux mouvements sociaux et proposent la même solution, un État fort qui se prétend représentatif de la majorité et du bien commun. J'aimerais attirer votre attention très rapidement sur la rhétorique de la liste. Généralement, on retrouve dans leur texte, en fait, le truc rhétorique de la liste. Jacques Beauchemin, par exemple, dresse une liste, là j'ai mélangé les deux éditions, des coupables. On amalgame les femmes, les noirs, les écologistes, c'est ça que j'ai trouvé. Les femmes, les noirs, les écologistes, les lobbies des gens d'affaires, les assistés sociaux, les personnes retraitées, les homosexuels, les groupes religieux, les queers, les sourds, les fumeurs, les handicapés, les orphelins du Plessis, les hémophiles, Fighters for Justice et même les pédophiles, je pense que c'est seulement dans la première édition. Michel Freytag épingle pour sa part, Michel Freytag, sociologue, ex-sociologue ici à l'UQAM, épingle pour sa part le mouvement des femmes, l'écologisme, les mouvements nationalitaires, et ethnico-culturels, régionalistes locaux, les homosexuels, les femmes battues, les résidents d'une zone mobilisée contre la construction d'une centrale nucléaire, l'antipsychiatrie, les pêcheurs de Gaspésie, puis les vieux, les malades, les mourants, les gros, les laids, les sourdoués, avant de revenir, c'est Freytag encore, à cette identité qui, selon lui, serait la plus riche d'entre elles, la plus constante de toutes, la moitié du ciel, c'est-à-dire les femmes. D'un point de vue politique et analytique, je considère qu'il est problématique de prétendre sérieusement qu'il y a concordance dans la logique politique et sociale d'un mouvement féministe, par exemple, et d'un regroupement de surdoués et surtout de pédophiles. Pas pour dire que les féministes ne peuvent pas être surdoués, c'est pas ça que je veux dire. D'un point de vue politique, il faut le dire, il me semble, c'est mon interprétation, tout simplement méprisant pour les féministes de les comparer à un lobby de pédophiles. Cela délégitimise le féminisme et dénote également un manque évident de solidarité envers ce mouvement social. Et puis, la seule minorité dont il ne parle jamais est celle qui, aujourd'hui encore, contrôle les institutions politiques, économiques, médiatiques, universitaires et religieuses, et qui concentre entre ses mains les richesses, les habitations, les voitures, les armes, c'est-à-dire les hommes blancs homosexuels. Hétérosexuels, pardon. Nous. Vous me suivez, c'est bon, vous me suivez. Donc, je voudrais terminer avec les effets, ce que je considère comme des effets antiféministes. Donc là, je me dégage de l'intention. Les effets antiféministes de la critique progressiste des luttes identitaires. Évidemment, je pense qu'il y a des effets aussi problématiques pour les luttes antiracistes et d'autres, mais bon. Michel, et je fais ça parce qu'en fait, par exemple, Michel Freytag affirme que le mouvement des femmes représente le prototype même des nouveaux mouvements sociaux qu'il critique. Donc, c'est parce qu'eux-mêmes identifient le féminisme comme l'incarnation du problème qu'ils veulent dénoncer chez les mouvements sociaux que je m'intéresse plus spécifiquement au féminisme. Selon Michel Freytag, aucun des nouveaux mouvements sociaux, y compris le mouvement féministe, je le cite, ne produit une nouvelle intelligibilité générale de la société et de l'histoire. Avec les nouveaux mouvements sociaux qui pratiquent l'éthique expressionniste identitaire, selon Freytag, il n'y a plus de politique. Curieusement, cette affirmation résume le propos de 25 pages que Freytag consacre aux nouveaux mouvements sociaux dans son livre « L'oubli de la société », à analyser et critiquer les mouvements sociaux et à prendre le mouvement des femmes comme prototype. Pourtant, dans ces 25 pages, il n'y a aucune référence aux écrits féministes, que ce soit l'histoire, la sociologie ou la politique. Zéro. En fait, la bibliographie de l'ouvrage « L'oubli de la société » de Freytag ne compte, à première vue, je suis simplement passé à travers, je n'ai pas lu les 250 titres de sa bibliographie, mais ce que j'ai cru comprendre, c'est que dans les 250 titres de sa bibliographie, il n'y a en fait aucun titre féministe. Comment savoir alors, comme Freytag le prétend, qu'un mouvement ne produit aucune intelligibilité, comme il le dit, si on ne prend pas le temps de lire ce que ce mouvement écrit? Cette analyse des nouveaux mouvements sociaux en général et du féminisme en particulier compte de plus et conséquemment, parce qu'on ne les lit pas, de nombreuses erreurs historiques et politiques. Évidemment, vous devez le savoir, ce ne sont pas les femmes qui se sont constituées en sujets minoritaires et qui ont inventé l'identité femme dans la modernité. Ce sont évidemment les pères fondateurs de la modernité qui ont constitué les femmes en identité inférieure et auxiliaire aux hommes, en prétendant qu'il y a une identité naturelle féminine et une identité naturelle masculine, et que l'identité naturelle masculine est évidemment supérieure à l'identité naturelle féminine. Il est donc faux de dire que les pères fondateurs de la modernité ont fondé un sujet unitaire, la nation, sur des principes universalistes. Il est faux de dire que le concept de citoyen, par exemple, qu'ils ont inventé, est un individu fait référence à un individu indépendant de classe de sexe. Prétendre pareille chose n'est possible que si l'on ne lit que les pages paires de l'histoire moderne. Mais il faut aussi lire les pages impaires. Les hommes modernes se disent universalistes, en effet, mais ils se disent aussi sexistes et ils en sont fiers. Ils le disent explicitement et en même temps. Les modernes proposaient un universalisme sexiste. Il faut penser sérieusement à cette tension et non pas seulement retenir l'élément qui semble le plus présentable aujourd'hui. En France républicaine, par exemple, ce sont les hommes, et non les femmes, qui ont décrété dans les assemblées qu'ils contrôlaient de façon non mixte que les femmes ne voteraient pas, qu'elles ne pouvaient pas être élues, qu'elles n'auraient pas le droit de porter les armes, ni de former des clubs politiques féminins, ni finalement de s'assembler à plus que 5 dans l'espace public sous peine d'emprisonnement. Et ce sont aussi les hommes qui ont exclu les femmes des universités et des professions libérales. Tout cela à cause de la prétendue différence féminine naturelle, affirmaient les hommes. Pourtant, il est commun d'affirmer que ce sont les pères fondateurs qui ont offert aux pauvres femmes les outils intellectuels et politiques pour qu'elles s'émancipent. Jacques Beauchemin encore, justement dans les échanges qu'on a eus, précisait que selon lui, et il n'est pas le seul à le dire, plusieurs le disent, l'universalisme abstrait sur lequel s'appuyait le pouvoir de l'homme blanc bourgeois portait effectivement et réellement la possibilité d'un projet indéfini d'émancipation pour tous qui préparait de loin les développements émancipatoires futurs. Il ajoute, cette promesse, c'était celle qui annonçait à chacun que son heure allait venir. C'est donc l'idée que dans les pages pères où les pères fondateurs exprimaient des propos universalistes, on offrait en fait les outils d'émancipation pour les groupes exclus dans la page impaire. Cela dit, il y a un double standard à lire l'histoire de la modernité comme ça. Un, lorsque les hommes ne demandaient que des... Premièrement, ça prétend que lorsque les hommes ne demandaient que des droits pour eux en excluant les femmes, en fait, ils étaient universalistes, égalitaristes et généreux dans le futur, alors que les femmes qui demandent les mêmes droits que les hommes leur refusent, elles sont égoïstes et particularistes. Il me semble que c'est un double standard. Pour sa part, la théoricienne féministe contemporaine Eleni Varikas souligne, et elle parle spécifiquement de la promesse, elle souligne « les promesses associées à la petite musique du progrès, inévitable, interdit toute évaluation critique et laisse entendre que les femmes n'ont pas eu besoin d'agir puisque le cours irrésistible du progrès s'en est chargé à leur place. » Cette fiction de la promesse a plusieurs effets politiques. Premièrement, elle fait oublier et ignorer la pensée politique et les luttes autonomes des femmes pour leur émancipation. Il n'est donc pas étonnant que Freytag ne fasse référence à aucune féministe, puisqu'on n'a pas besoin d'y faire référence, puisque c'est les hommes modernes qui ont offert, en fait, l'émancipation aux femmes plus tard. Puis, comme elles ne comprennent pas, elles demandent juste des droits pour elles-mêmes. Deux, faire croire que c'est aux hommes qui revient le mérite de l'émancipation des femmes. Trois, conclure que les mouvements progressistes d'aujourd'hui devraient simplement revenir au projet des pères fondateurs de la modernité, qu'ils soient républicains ou socialistes. Quatre, conclure qu'en tant qu'hommes progressistes aujourd'hui, nous n'avons pas à réfléchir de manière autocritique notre propre position dans les rapports sociaux de sexe. Je termine parce que je pense qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. J'avais un exemple sur un anarchiste des années 20, mais bon, vous vous en foutez complètement, j'imagine. La question, outre les exemples sur les anarchistes des années 20, c'est qu'est-ce qu'en fait les amis progressistes conservateurs ont à proposer concrètement aux groupes qu'ils considèrent comme des identités parcellaires, particulières, égoïstes, en termes d'alliance et de collaboration et de solidarité. Est-ce que c'est simplement que ces groupes se rallient sous la bannière, par exemple, d'un parti socialiste fort, unitaire, ou d'un parti républicain nationaliste, où il y a vraiment une proposition d'alliance? Et je finis là-dessus. Il faudrait que les hommes progressistes s'arrêtent de se demander et d'expliquer aux femmes ce que le féminisme peut faire pour nous, les hommes, ou notre État, ou notre nation, ou notre prolétariat, ou notre famille, mais qu'ils se demandent, que nous nous demandons plutôt ce que nous, en tant qu'hommes progressistes, pouvons faire pour le féminisme, par exemple. Plutôt que de penser en termes unitaires, pourquoi ne pas penser en termes de convergence, de coalition et d'alliance? D'ailleurs, l'histoire occidentale montre que les femmes en général et les féministes en particulier se sont souvent engagées dans les luttes progressistes, dont la lutte souverainiste au Québec et les mouvements de gauche et d'extrême gauche au Québec. Mais elles ont souvent été trahies par les progressistes et leur sacrifice n'est que rarement rappelé par l'histoire. Alors, quand on lui demande ce que les femmes peuvent apporter à la lutte pour l'émancipation du prolétariat, la féministe radicale matérialiste Christine Delphi répond. La solidarité, c'est par définition quelque chose de mutuel, et cette mutualité exige que cette question soit retournée, ou plus exactement rendue réciproque. C'est à lui, l'homme progressiste, de voir si l'alliance avec les femmes contre le capitalisme vaut le coup de l'abandon des sacrifices patriarcaux, ou s'il préfère garder ses bénéfices, au risque de ne pouvoir renverser le capitalisme tout seul. Sa décision nous en apprendra beaucoup, son indécision nous en apprend déjà beaucoup. Fin de la citation. Et je termine là-dessus. Il faut se demander ce que Michel Freytag, Jacques Beauchemin, Éric Martin et les autres proposent pour lutter contre le patriarcat, par exemple, c'est-à-dire la domination des hommes sur les femmes. N'ont-ils encore qu'à promettre un jardin de roses quand la nation sera souveraine ou la bourgeoisie vaincue? Clairement, ce n'est pas suffisant.